Sire, avez-vous d'autres désirs ? Dit frère Renaud. Hugues de Bouville replantait sur un candélabre un cierge qui menaçait de s'effondrer.
« Pourquoi fait-il si sombre ? » demanda le roi. « Est-ce encore la nuit ou le jour ne s'est-il point levé ?»
Bien qu'on fût au milieu de la journée, une obscurité rapide, anormale, angoissante enveloppait le château. L'éclipse annoncée était en cours, et maintenant totale, couvrait de son ombre le royaume de France.
« Je rends à ma fille Isabelle, dit brusquement le roi, la bague dont elle me fit présent, et qui porte le gros rubis qu'on nomme la cerise. »
Il s'interrompit un instant, puis demanda une nouvelle fois
« Pierre de la Tille, est-il arrivé ?»
Comme personne ne répondait, il ajouta
« Je lui donne ma belle émeraude. »
Il continua en léguant à diverses églises, à Notre-Dame de Boulogne parce que sa fille s'y était mariée, à Saint-Martin de Tours, à Saint-Denis, des fleurs de lys d'or. D'un prix de 1000 livres, précisa-t-il pour chacune. Frère Renaud se pencha et lui dit à l'oreille «
Sire, n'oubliez point notre prieuré de Poissy. »
Sur le visage effondré de Philippe le Bel, on vit passer une expression d'agacement.
« Frère Renaud, dit-il, je donne à votre couvent la belle Bible que j'ai annotée de ma main. Elle vous sera bien utile, à vous et à tous les confesseurs des rois de France. »
Le grand inquisiteur, bien qu'il attendît davantage, sut cacher son dépit.
« À vos sœurs de Saint-Dominique, à Poissy, je lègue la grande croix des Templiers, et mon cœur aussi y sera porté. »
Le roi avait terminé la liste de ses dons. Maillard relut à haute voix le codicille. Quand il arriva au dernier mot, de par le roi, Valois, attirant à lui l'héritier du trône et lui serrant fermement le bras, dit « Ajoutez, et du consentement du roi de Navarre !» Philippe le Bel abaissa le menton, presque imperceptiblement, d'un mouvement d'approbation résignée. Son règne était clos. Il fallut lui guider la main pour qu'il signât au bas du parchemin. Il murmura «
Est-ce tout ? » ?»«
Non. La dernière journée d'un roi de France n'était pas encore achevée.
Il faut maintenant, sire, que vous remettiez le miracle royal, dit frère Renaud.
Il invita l'assistance à se retirer afin que le roi transmît à son fils le pouvoir mystérieusement attaché à la personne royale de guérir les écrouelles. Renversé sur ses coussins, Philippe le Bel gémit.
Frère Renaud, regardez ce que vaut le monde. Voici le roi de France.
À l'instant qu'il mourait, on exigeait encore de lui un effort pour qu'il investît son successeur de la capacité réelle ou supposée de soulager une affection bénigne. Ce ne fut point Philippe le Bel qui enseigna les formules et les prières du miracle. Il les avait oubliées. Ce fut frère Renaud. Et Louis de Navarre, agenouillé auprès de son père, ses mains trop chaudes jointes aux mains glacées du roi, recueillit l'héritage secret. Ce rite accompli, la cour fut à nouveau admise dans la chambre, et frère Renaud commença de réciter les prières des agonisants. La cour reprenait le verset « In manus tuas domine »« Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Lorsqu'une porte s'ouvrit, l'évêque Pierre de Latille, l'ami d'enfance du roi, arrivait. Tous les regards se dirigèrent vers lui, tandis que toutes les lèvres continuaient de marmonner.
« In manus tuas domine » dit l'évêque Pierre, reprenant avec les autres.
On se retourna vers le lit et les prières s'arrêtèrent dans les gorges. Le roi de fer était mort. Frère Renaud s'approcha pour lui fermer les yeux. Mais les paupières, qui n'avaient jamais battu, se relevèrent d'elles-mêmes. Par deux fois, le grand inquisiteur essaya vainement de les abaisser. On dut couvrir d'un bandeau le regard de ce monarque qui entrait, les yeux ouverts, dans l'éternité.
vous avez entendu Le Roi de Fer, première partie des Rois maudits de Maurice Druon, interprétée par François Berland, réalisation Arnaud Maton. C'est une production Livraphone avec l'aimable autorisation de M. Maurice Druon.